Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Quel était l'objectif de celui ou de ceux qui ont lancé la cyberattaque mondiale de samedi dernier? Motif strictement crapuleux, auquel cas l'objectif n'a pas été atteint. Sur les 150 pays touchés et les 300 000 victimes recensées, essentiellement des entreprises, une toute petite minorité se serait acquittée de la rançon demandée pour déverrouiller les ordinateurs pris pour cible. Motif politique alors, la Russie ayant été affectée, c'est la Corée du Nord qui fait office de principal suspect, d'autant que le virus WannaCry, à l'œuvre durant le week-end, présenterait des similarités avec d'autres cas de piratage plus anciens attribués au régime de Pyongyang. Ce que l'on sait, c'est que la faille qui a permis l'attaque du système d'exploitation Windows était connue des services de la NSA, une des agences du renseignement américain, et c'est le vol de cette information, de cette arme numérique, qui a permis aux assaillants de passer à l'attaque. Les dégâts sont moins importants que le choc provoqué par cette offensive. Il appelle des réponses qui ne soient pas seulement techniques, mais aussi politiques, avec le risque, comme dans d'autres circonstances, que le souci de sécurité l'emporte sur le respect des libertés. Alors à qui profitent les failles informatiques ? Mais aussi, qui va en faire les frais? Ben, c'est la question que nous allons poser à trois invités ce soir. Nathalie Devilliers, bonsoir.
Bonsoir, Hervé Gardette.
Vous êtes juriste, professeur de droit à l'école de management de Grenoble et vous tenez une chronique, la chronique juridique sur l'excellent site The Conversation. Pour discuter avec vous, Benoît Thiolin, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien président du Conseil national du numérique, vous êtes désormais directeur de l'innovation du groupe Open. Le groupe Open, en deux mots, c'est...
C'est une société de services du numérique.
Et ouais. Vous êtes par ailleurs doyen ou co-doyen, je crois, de l'école de management
et l'innovation de Sciences Po.
Et l'innovation de Sciences Po. Notre troisième invité, c'est Amal Guiton. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Libération, je renvoie vers votre dernier livre. Publié au Diable Vauvert, une coédition d'ailleurs avec Radio France, Hackers, au cœur de la résistance numérique, puisque j'imagine que nous allons parler de cette catégorie d'individus ce soir. Mais je voudrais d'abord avoir votre appréciation, les uns et les autres, de cette cyberattaque du week-end dernier. Qu'est-ce qui vous a finalement le plus surpris? Est-ce que c'est l'ampleur de l'attaque ou bien est-ce que sont finalement les dégâts relativement limités, semble-t-il, de cette attaque, Nathalie Devilliers?
Pour moi, c'est plus le fait qu'elle soit rendue publique. En général, quand une attaque est faite contre une entreprise, si celle-ci n'a pas l'obligation de communiquer sur la faille de sécurité qui a été opérée, dans ce cas-là, la société ne communique pas. Ici, pour moi, le fait qu'elle soit massive, le fait qu'elle soit rapide, qu'elle repose sur l'esclavage de machines connectées et donc ait un impact aussi fort, et qu'elle soit rendue publique, est un message qui s'adresse aux entreprises, au gouvernement, mais aussi aux particuliers.
En même temps, on imagine mal que ça puisse ne pas être rendu public, étant donné l'ampleur de cette attaque. Ça aurait été compliqué quand même de le cacher, non ?
Oui, ça aurait été compliqué, mais je pense que cette attaque s'inscrit dans une dynamique. On a été mis en garde en octobre 2016 avec des attaques conjointes sur des sites commerciaux très connus. On en parlera tout à l'heure, c'est une attaque qui s'inscrit aussi dans une dynamique autour du secret, de la sécurité, de la défense, du confidentiel défense. Donc pour moi, elle s'inscrit dans une dynamique et on cherche à attirer l'attention du public sur ces éléments.
Donc, quand je posais la question du motif, bah voilà déjà un élément de réponse. Amal Guiton.
Je pense qu'elle ne pouvait de toute façon pas rester secrète à partir du moment où il y a eu des perturbations dans des hôpitaux publics, où il y a eu des perturbations visibles dans les entreprises. Enfin, quand des opérations, par exemple, sont reportées parce que les médecins n'ont plus accès aux dossiers des patients, de toute façon, ça devient public extrêmement vite et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des dépêches très rapidement le vendredi disant dans le système national de santé britannique, il se passe vraiment quelque chose et on a vu effectivement que ça prenait de l'ampleur un peu partout. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la rapidité, effectivement. C'est à la fois l'ampleur, parce que je crois on est à 150 pays en gros, qui ont été touchés, et la rapidité de diffusion qui s'appuie effectivement sur une vulnérabilité qui avait été dévoilée en février par un groupe de pirates informatiques, après avoir été manifestement subtilisée à la NSA. On aura probablement l'occasion d'y revenir. Mais ça a tiré parti de cette faille pour se répandre dans les réseaux locaux, c'est-à-dire que ça ne bloquait pas les données que sur la machine, mais ça se répandait dans l'ensemble du réseau. Donc effectivement, ça a pris des proportions extrêmement fortes et ça a été extrêmement rapide. Moi, c'est surtout ça qui m'a frappé, c'est la virulence de l'attaque.
Benoît Thiolin.
Oui, je suis d'accord. Et au-delà de cette virulence, peut-être moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le retentissement en réalité autour de ce qui finalement a été assez limité. le retentissement qu'il y a eu sur toute la planète. Et je crois que il est probable que, comme Snowden aura été, je dirais, l'élément déclencheur d'une prise de conscience mondiale sur à la fois la place du numérique dans nos vies et les enjeux en fond de protection des données personnelles pour l'ensemble des internautes, des individus, eh bien il est possible que l'événement de ce week-end soit un petit peu le coup de tonnerre de prise de conscience dans le monde entier que les questions de, on va dire, cybersécurité n'étaient pas uniquement d'ordre militaire, comme on l'a pensé peut-être un peu trop longtemps, et que ça concernait tout le monde, et surtout ça concernait notre vie quotidienne, y compris les plus éloignés au fond de ce qu'on pourrait appeler les enjeux militaires, comme les hôpitaux.
Ça ne veut pas dire que pour autant que pour vous, Benoît Thiolin, il y avait une intention délibérée d'en faire quelque chose qui entraîne une vaste prise de conscience, mais même si le résultat est identique finalement au constat que fait Nathalie de Villiers.
Non, j'ai du mal à imaginer que la Corée du Nord, si elle est à l'origine, ait comme objectif de conscientiser le monde sur les enjeux de cybersécurité. Mais bon, voilà. Disons que on peut perdre beaucoup de temps à essayer de réfléchir à quel était l'objectif. Ça peut aussi tout simplement avoir échappé à ses créateurs. Vous savez, il y a beaucoup de virus qui sont testés, qui peuvent avoir des objectifs multiples. Et par ailleurs, quand vous visez une cible, vous pouvez l'atteindre et puis en toucher plein d'autres. On a eu des tas de cas dans l'histoire qui se sont produits encore très récemment. Donc, je ne sais pas quel était le dessein, et je pense qu'on va avoir du mal à le discuter ce soir, parce qu'on a peu d'éléments. Mais en revanche, les conséquences, ça, on peut les analyser.
Alors justement, que ce soit intentionnel ou pas, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles ont été les réactions. Est-ce que ça va produire ? Est-ce qu'on peut dire que les réactions sont à la hauteur peut-être de la sous-estimation du risque par rapport à ce type d'attaque pour les uns et les autres ? Nathalie de Villiers, Amaël Guiton, Nathalie
de Villiers. Vous voulez dire dans les entreprises, par exemple ?
Dans les entreprises, par exemple, et plus largement, d'ailleurs, dans le grand public dans lequel je m'intègre de manière tout à fait...
Cette attaque, qui est un problème de sécurité des systèmes d'information, est souvent connue de façon isolée. Elle souffre un petit peu d'une isolation clinique. C'est le domaine des SI, c'est technique, c'est hyper compliqué.
Les SI.
Les systèmes d'information. Et donc, cette problématique est perçue par les entreprises de manière transverse. Elles sont obligées de le faire parce qu'avec l'entrée en vigueur du règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel l'année prochaine, au mois de mai, toute une série d'obligations intègre la dimension de sécurité. Sécurité, notamment la notification des violations de sécurité des données personnelles. Donc, cette problématique de sécurité des SI est en train de s'installer de manière globale avec les RH, le juridique, le technique, l'opérationnel, le financier, le commercial, mais avec des priorités qui sont différentes, des moyens aussi qui sont différents en termes de ressources humaines, en termes de budget. Donc, il va falloir pour les entreprises, bien sûr, cet événement va forcer la prise de conscience accélérée et la mise en œuvre de plans de réponse sur incidents plus précis, plus concrets. Mais en tout cas, c'est une donnée qui est aussi dans une dynamique, en tout cas pour les plus grandes sociétés.
Sur la prise de conscience, Amaël Guiton.
Non, juste peut-être un point quand même sur la Corée du Nord. Je pense qu'à ce stade, il faut quand même rester extrêmement prudent et ne jamais oublier que quand on trouve dans le code d'un logiciel malveillant des éléments qui rappellent un autre logiciel malveillant, il peut s'agir du même attaquant comme il peut s'agir d'un attaquant totalement différent qui précisément essaie de se faire passer pour le premier. C'est ce qu'on appelle les opérations sous fausse bannière. Et pour le coup, les experts en cybersécurité sur cette affaire-là, ils l'ont signalé, hein, mais ils restent extrêmement prudents dans leurs conclusions et je pense qu'effectivement, il vaut mieux. La réaction, elle a été effectivement à la hauteur de l'ampleur et de la viralité. C'est quand même ça qui a le plus frappé. Hein. Ça s'est fait en moins de 24 heures, en réalité. Après, je pense qu'il y a une différence entre les autorités chargées de la cybersécurité. En général, ont conscience du problème et tirent assez régulièrement la sonnette d'alarme. Effectivement, dans les entreprises, là où c'est compliqué, c'est que, notamment dans les systèmes industriels, hein, les systèmes métiers, quand ça marche, on essaie de pas forcément y toucher, les mises à jour sont pas forcément prévues. Enfin, on va dire qu'il y a des lourdeurs qui font qu'effectivement c'est pas forcément simple. Il est probable qu'effectivement avec un événement de ce type, ça fasse tilt et que ça pousse, y compris à changer les pratiques, notamment parce que on voit les conséquences très concrètes, hein, qui sont pas seulement l'ordinateur de quelqu'un qui fait ses mails qui est soudainement bloqué, mais des dossiers patients qui ne sont plus accessibles, des chaînes de production qui sont interrompues, parce que Renault a quand même interrompu l'activité d'une usine, hein, donc c'est pas rien. Et je pense que oui, de ce point de vue-là, ça va forcément progresser. Ouais.
Il y a des lourdeurs, et puis il y a aussi des coûts qui peuvent expliquer ces lourdeurs, Benoît Thiolin.
Oui, bien sûr. Alors, pour parler notamment des entreprises, c'est vrai que c'est très disparate, en fait, mais comme le sont les entreprises, quand vous êtes une grande entreprise qui a des grands systèmes d'information et qui a des enjeux, on va dire, industriels et de sécurité un peu complexes, je sais pas, imaginons un EDF ou autre, ça fait très très longtemps, en réalité, qu'ils sont protégés, qu'ils ont conscience de tout ça. Ils ne l'ont pas découvert récemment, loin de là. En revanche, c'est pas parce que vous avez pris conscience que vous êtes capable, ensuite, de pouvoir, de plus en plus, dans des dimensions qui vont maintenant se nicher dans absolument partout dans une entreprise, que vous arriviez à faire ça. Lorsque vous aviez deux ou trois systèmes d'information, vous aviez quelques personnes dans votre entreprise qui avaient accès à des ordinateurs, c'était assez simple, finalement, de construire une espèce de muraille de Chine numérique autour de tout ça. Mais quand, en réalité, vous avez en jeu des tas d'applications très différentes, que vous avez telle application commandée par telle entreprise, telle autre par une autre, qu'une autre l'avait développée Internet, et que tout ça, en réalité, doit marcher ensemble. Hein, on comprend maintenant ce que c'est que l'interopérabilité des systèmes. Dans une entreprise d'une grande taille, vous avez des milliers et des milliers de logiciels différents. Donc, en réalité, vous pouvez avoir conscience, mais parfois, il faut énormément de moyens, vous ne les avez pas toujours, donc il faut faire des choix, et parfois, quand même, vous avez les moyens, vous n'avez pas le temps. Parce que quand vous avez des vieux logiciels qui ont été programmés dans des langages qui ont presque disparu, parfois, il faut des années pour refaire le même, à peu près, dans un autre langage sur lequel vous allez avoir une meilleure maîtrise. Donc, c'est pour montrer que c'est assez compliqué. Et par ailleurs, pour l'État, là, pour le coup, je pense qu'il faut, il faut voir que entreprises, individus et États réagissent par rapport à tout ça de manière extrêmement différente. Les États, pour le coup, c'est très différent. Un État a été historiquement créé en grande partie pour régler des questions de sécurité. Un État, ça se pense comme une forteresse assiégée. Donc, et d'ailleurs, au moment où on a vu rentrer la vague du numérique dans les États, ils ont eu un peu de mal. Ouvrir les firewalls d'un ministère, ça a pris des années. Et je vous dirais, dans les grandes entreprises, souvent, aussi un peu. Bon. Donc je vous dirais que là-dessus, tous les problèmes de sécurité qui ont été engagés ces dernières années, ils ont non seulement fait prendre conscience très tôt à l'État d'agir, mais je dirais en plus, ils en sont donné les moyens. Vous voyez, la création de l'ANSSI, toutes les recommandations qu'ils font, etc. Donc je pense que c'est très inégal. Les États, ils en ont pris conscience, ils mettent des moyens, ensuite ils ont des moyens qui sont à la mesure de leur taille. Et ça, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il y a un enjeu aussi, à mon avis, européen de réaction sur ces sujets-là. C'est-à-dire que quand vous avez 2000 ingénieurs qui vous protègent votre sécurité informatique dans un État-nation, et que vous avez un autre État-nation, ou plutôt un empire, qui est capable de mettre en face de vos 2000, 20 000 ou 200 000, vous avez beau avoir les meilleurs ingénieurs du monde et mettre les moyens, il y a un moment donné, c'est quand même des cerveaux connectés entre eux qui vont répondre à tout ça. Et donc, vous voyez que là-dessus, il y a un enjeu aussi humain, en fait.
Les États mettent les moyens, mais c'est pas quelque chose dont, je reprends ce terme de grand public, a forcément conscience, parce que c'est pas non plus une question qui apparaît de manière très très présente, justement, dans le débat public. On a l'impression qu'on délègue ça, finalement, à des techniciens, et que on sous-estime peut-être, en tout cas, la portée politique que peuvent avoir des décisions en la matière, Amel Guiton.
C'est le cas, j'allais dire, pour tous les débats qui concernent le numérique, hein. C'est-à-dire que ça met du temps. Dans un premier temps, effectivement, c'est réservé à des gens assez techniques. Et puis, petit à petit, ça finit par percoler. Moi, je sais que j'avais été assez agréablement surprise, hein, pour tout dire, des débats qu'il y avait eu en France autour de la loi numérique, où j'avais trouvé quand même qu'il y avait une bonne poignée de parlementaires qui s'emparaient de ces sujets et qui disaient des choses avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord par ailleurs, mais qui, en tout cas, étaient argumentées, étayées, etc. Donc, effectivement, maintenant, l'enjeu, il est de faire prendre conscience de ces questions-là comme des questions politiques dans le grand public, mais pour la cybersécurité comme pour l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un peu du même, hein. C'est-à-dire
qu'il peut-être avec faut la réussir à élargir. En France, quand même, ces dernières années, on a quand même, pour des tas de raisons, hein, qu'on peut tout à fait comprendre, on a accumulé les législations en la matière. C'est-à-dire que des débats au Parlement, il y en a eu ces cinq dernières années sur ces sujets, comme il n'y en avait pas eu pendant 20 ans. Vous avez eu la loi de programmation militaire, la loi sur le renseignement, la loi sur le numérique et un certain nombre d'amendements en plus qui ont été passés ça et là. Dans l'ensemble, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat au Parlement. En revanche, ça concerne quand même une poignée. C'est souvent d'apparence très technologique, et ça l'est effectivement. Et du coup, le lien entre ces discussions souvent très techniques et évidemment le débat public, parfois il manque. Mais je vous dirais quand même que je pense que ces événements-là, comme l'affaire Snowden, va progressivement quand même installer ce débat dans la tête des gens et donc un jour en faire un sujet de débat public.
Nathalie Devilliers.
Je vais tempérer ce propos parce que je pense que depuis Snowden, on n'a pas arrêté d'utiliser nos téléphones mobiles. On ne s'est pas jeté sur nos paramètres de sécurité, de localisation, de partage de contacts. On télécharge de plus en plus d'applications en acceptant ce partage. L'exemple de la santé est très intéressant. Aux US, notamment en Californie, les failles de sécurité dans les hôpitaux sont communiquées de manière publique. Et ici, c'est un exemple très concret justement de comment le système d'information va impacter des patients en l'occurrence. On sait très bien, pour quand on s'intéresse aux failles de sécurité, qu'un pacemaker peut être hacké. On sait aussi qu'on peut tromper l'identification biométrique avec une imprimante. Que partager, ça donc, finalement, si on revient à la granularité du citoyen lambda et de l'usager des millennials, partager sa localisation et tout son répertoire de contacts, c'est pour un simple jeu, les conséquences sont invisibles. Mais je pense que maintenant, on va peut-être mieux les comprendre.
Ce qui a peut-être changé, c'est qu'on a conscience de ces risques-là, mais qu'on les court quand même, qu'on les prend quand même.
Tout à fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand j'indiquais à toutes les personnes auxquelles je m'adresse hors de conférences ou de formations, et je leur dis attention à vos données personnelles, attention à la sécurité, oui, mais générer un cachet, est-ce que vous vous baladez à poil sur Internet? Non, les exigences de sécurité sont les mêmes dans le numérique que dans la vie courante. Vous ne quittez pas la maison sans avoir bouclé la porte. Derrière vous, c'est une exigence de base. Donc, il va y avoir une certaine nécessité de... peut-être d'avoir un permis de geeker, quelque part.
Ça serait quoi un permis de geeker, dites-moi ?
Non, mais plus pour en termes d'éducation. Je pense tout simplement aux enfants, aux plus jeunes, qui on demande de faire des exposés.
Protéger, par exemple.
Oui, on leur demande de faire des exposés très très jeunes maintenant, de faire même des PowerPoint de la classe inversée. Moi, je suis tout à fait preneuse. Mais le mineur qui se connecte sur Internet doit aussi savoir se protéger. Donc, de la même manière qu'on leur apprend à traverser la rue les gestes de premier secours, on pourrait avoir ce type de démarche dans le numérique auprès des plus jeunes.
J'avais noté la dernière fois que vous étiez venu, Amel Guiton, que sur Twitter, vous vous présentiez dans votre profil avec un code, je crois, qui est le code alors qui permet quoi
de
vous écrire.
Oui, c'est ma clé PGP, donc ce qui est un algorithme de chiffrement qui permet de m'envoyer des mails justement que je serai la seule à pouvoir lire et bien évidemment la personne qui me les a envoyés.
Être en mesure d'avoir cette compréhension-là et de répondre aux risques de cette manière, c'est quelque chose qui est extrêmement peu répandu, finalement.
Après, moi, je suis toujours un peu embêtée dans ces débats, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que l'Internet grand public, ça a quoi ? Ça a 20 ans. Bon. Donc, on apprend, et c'est long, et c'est compliqué, et il y a des gens qui vont plus vite que d'autres.
Le mobile, ça a 10 ans.
Voilà, et moi, je constate, par exemple, qu'entre les premiers usages de Facebook que je pouvais observer et les usages que je vois aujourd'hui ou que je vois se développer chez les ados, il y a des évolutions parce que ils apprennent entre guillemets à identifier leur modèle de menace, c'est-à-dire qui va les regarder sur Internet. Dans le cas des ados d'ailleurs, c'est plus souvent les parents, le modèle de menace que la NSA par exemple. Ouais. Mais donc on apprend et effectivement c'est long et c'est des dynamiques qui sont complexes parce qu'il faut que les politiques s'en emparent, il faut que les médias s'en emparent et soient capables de faire de la vulgarisation, de la sensibilisation et d'expliquer surtout d'être précis dans ce qu'ils expliquent tout en réussissant à rendre les choses compréhensibles. Il faut aussi que les gens qui développent des applications qui permettent de se protéger prennent mieux en compte ce qu'est un utilisateur lambda, j'ai envie de dire. Et ça, moi, je constate que depuis Snowden, ça a énormément protégé, ça a énormément progressé. C'est-à-dire qu'avant, il fallait utiliser des logiciels compliqués, voilà, justement, typiquement des clés de chiffrement, etc. Maintenant, voilà, on installe WhatsApp et on est quand même globalement plutôt pas mal protégé. Ou on installe Signal et on l'est encore plus. Et ça s'installe en deux clics de pouce sur un smartphone. Donc oui, il faut le temps que tout ça se mette en place, mais les évolutions, elles vont en général plus vite que les lois et plus vite que la capacité pour le grand public à s'en emparer, à l'intégrer, à l'incorporer, j'ai envie de dire.
Il y a des organismes qui apprennent, en tout cas sans doute peut-être plus vite que le grand public. Je reviens à la question de la NSA, cette agence du renseignement américain, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, cette cyberattaque, avec donc la connaissance de la part de la NSA d'une faille dans le système d'exploitation Windows qui avait été conservée par la NSA, qui n'avait pas été communiquée jusqu'au moment où on lui a volé, disons, cet élément d'information. Benoît Thiolin, pour quelles raisons aujourd'hui on se retrouve avec des agences de renseignement qui finalement confisque certaines informations. Est-ce que c'est justement pour mieux pouvoir surveiller les citoyens que nous sommes? Et est-ce que ça n'est pas cette façon d'approcher les choses en train de se retourner contre elles? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont pas aussi là apprendre à la faveur de cette attaque que à vouloir capter certaines informations, pas les livrer, on est plus vulnérable finalement?
Oui, vous l'avez très bien résumé. C'est en fait le débat.
J'ai du mal, hein.
C'est le débat qui a traversé toutes les lois sur le renseignement qui ont été votées et dans notre pays récemment. C'est-à-dire savoir si au fond on a un besoin de sécurité qui est grandissant, qui est très complexe. Le numérique donne des tas de pouvoirs à des tas de gens qui en font très bon usage et à quelques personnes qui en font un très mauvais usage. Et du coup, c'est très compliqué pour les États de surveiller cette espèce de masse incroyable de production d'informations quotidiennes. Pour ce faire, il y a des tenants d'une position qui consiste à dire il faut le plus possible que tout ça soit sous notre seule transparence pour qu'on puisse l'observer pour votre sécurité à vous. Bon. Et puis, il y a des gens qui disent le débat est un peu plus complexe que ça parce que ça revient à dire, en gros, que pour que la police fasse efficacement son travail de police, eh bien, on interdirait à ce que votre appartement ait des serrures. Bon. Et au fond, on a un peu ce débat-là. Bon. Et ce que montrent en réalité ces portes, alors il y a aussi toute l'histoire des portes dérobées, vous savez, là c'était une faille, parfois c'est, on voudrait que tous les grands fournisseurs de logiciels mettent une porte dérobée accessible que aux policiers. C'est le même débat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites les systèmes d'information sont devenus vitaux pour l'organisation, nos organisations humaines, parce que c'est pas simplement des histoires de comptes bancaires ou autres, c'est aussi parfois un hôpital qui peut être paralysé. Et bien à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut plus simplement se dire il faut maintenir sous la transparence bienveillante des États, parce qu'en réalité cette transparence bienveillante, ou en tout cas ces accès qu'on peut laisser, en réalité ils fragilisent les systèmes. Et donc je pense que ce qui va ressurgir à l'occasion de ce débat, ça va être à nouveau, est-ce que l'on donne la capacité aux individus de pouvoir crypter systématiquement lorsqu'ils le souhaitent sans capacité de décodage. Et c'était aussi le débat, rappelez-vous, qu'il y avait lorsque le FBI a demandé les clés d'accès à Apple, et Apple répondait, et là-dessus, moi, je crois qu'ils étaient tout à fait pertinents, ils répondaient, si on le faisait, alors ça fragiliserait l'ensemble de notre système, et on pense que c'est plus dangereux que le peu d'informations que vous pourriez récupérer.
Amel Guiton.
Il y a un autre débat, je pense, que ça va relancer, qui existe déjà, mais qui, pour le coup, est encore un débat de spécialistes, qui, là, peut-être, va prendre une autre ampleur. C'est effectivement le débat sur l'usage de ces failles qu'on garde secrètes. On appelle ça des zero day, et donc les services de renseignement.
Zero day, pour quelle raison?
Zero day, parce qu'elles sont encore inconnues. En fait, elles n'ont pas eu de durée de vie publique. Je pense que c'est à cause de ça. Et effectivement, les services de renseignement en découvrent. Où on achète, il y a un marché de ces failles qui est par ailleurs remarquablement opaque, sur lequel on a extraordinairement peu d'éléments, et ils s'en servent, oui, à des fins d'espionnage. Et effectivement, le problème que ça pose, c'est que on connaît une faille, on la garde pour soi, mais on n'est jamais à l'abri qu'elle serve à quelqu'un d'autre, et notamment qu'elle serve à un adversaire. Bon, ce qui est plus ou moins, là on est typiquement dans ce cas de figure, avec cette faille qui, bon, par ailleurs avait quand même été corrigée par Microsoft un mois avant qu'elle soit rendue publique, mais c'est vrai que s'ils en avaient eu connaissance bien avant, ils auraient pu faire le nécessaire bien avant,
et pas sur toutes les versions. Enfin, on en revient à la question technologique de tout à l'heure, et aussi qu'il y a une question financière, c'est que vous mettez à jour le dernier logiciel que vous avez fait, mais celui que vous avez écrit il y a 15 ans, et qui tourne encore parfois dans plein d'endroits.
Là, c'était le cas. Et du coup, la question que ça pose, c'est celui de l'arbitrage aussi entre la défense et l'attaque. On a la chance en France, et pour le coup, je pense que c'est vraiment une chance d'avoir les deux séparés. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, la NSA a fait à la fois le travail de l'ANSI, donc la sécurité des systèmes d'information, et celui de la DGSE. Ils font à la fois l'attaque et la défense.
Ouais, c'est compliqué, effectivement.
C'est
un mélange des genres qui est quand même extrêmement problématique. Et ce débat-là va être reposé, je pense, de manière beaucoup plus vive suite à cette vague de cyberattaques.
Dans un article du Figaro aujourd'hui, Benjamin Ferrand explique, enfin vous rappelle en tout cas, que Microsoft, justement, en février, avait lancé un appel pour la signature d'une sorte de convention de Genève du numérique, avec, écrit-il, l'introduction de normes qui obligeraient les États à révéler aux éditeurs les failles de sécurité en leur possession. Nathalie Devilliers, est-ce que vous croyez que, enfin, est-ce qu'il est nécessaire finalement que les États déjà s'emparent de ces questions de manière plus publique et le fassent peut-être dans une forme de coopération, ou en tout cas de discussion discussions avec les grandes entreprises du numérique.
Tout à fait. Imposer une telle obligation, ce serait finalement responsabiliser les entreprises. Quand on laisse par contre Apple maître de décider si les données doivent être communiquées au FBI, là, en fait, on place sur un pied d'égalité les GAFA avec les États. Donc, il faut également être très vigilant sur reconnaître ou pas le poids des GAFA. Le Danemark l'a fait en nommant un ambassadeur auprès des GAFA.
La vigilance, pour vous, elle doit davantage s'exercer sur les GAFA que sur les États qui peuvent avoir certains intérêts, justement, à garder pour eux des informations.
Je pense que la situation est un peu plus complexe. La coopération avec les entreprises n'existe pas du fait de la cyberattaque ou depuis Snowden. Elle existe à travers l'Union internationale des télécommunications, qui est le bras numérique de l'ONU, avec des groupes de travail dans lesquels les États sont confrontés aux entreprises et aux académiques et au public. Enfin, ce sont des organes qui existent. Mais effectivement, cette dimension sécuritaire va certainement prendre le pas sur des intérêts publics, les libertés fondamentales, les droits des individus, et faire cette prise de conscience auprès des personnes ne peut qu'apporter un regard finalement critique à la fois sur les États et sur les entreprises pour essayer de trouver cet équilibre, en tout cas de le remettre en question dès que ce sera nécessaire.
Et juste quand vous évoquez une dimension sécuritaire, est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi imaginer qu'il y ait des réponses qui soient des réponses sécuritaires mais au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire on irait vers davantage de fermeture des systèmes pour essayer de s'en protéger plutôt que d'être dans des systèmes coopératifs?
Il vaut toujours mieux être dans un système coopératif. La transparence démocratique, le fait que, par exemple, l'Open Society Foundations propose une protection aux fuiteurs d'infos, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'illégalité, qui ne sont pas des lanceurs d'alerte, qui sont interdits en fait de livrer de l'information parce que ça relève du renseignement, de la défense, de la diplomatie ou des armées, va dans ce sens.
Benoît Thiolin et Amaël Guiton. Benoît Thiolin.
Oui, je pense qu'on retrouve évidemment le on va dire la dialectique liberté-sécurité, mais le problème c'est qu'elle se niche dans des dimensions très différentes. C'est-à-dire que justement, le débat qui devrait s'ouvrir maintenant, c'est plutôt un débat qui va permettre de pouvoir nuancer et de dire, eh bien, on doit séparer dans nos systèmes d'information un certain nombre de données, et ça veut dire structurer probablement l'organisation, l'informatique qui est en dessous des infrastructures de manière différente.
Moi, chef d'entreprise, je pourrais par exemple me dire, je suis pas chef d'entreprise, mais je pourrais me dire, finalement, moi j'ai joué le jeu de l'ouverture des données, de l'échange des données, puis je me rends compte que je suis extrêmement vulnérable et je pourrais être tenté de revenir en arrière pour me protéger.
Disons qu'en fait, alors c'est vrai que les DSI, les directeurs des systèmes d'information, qui étaient un peu les monsieur sécurité des entreprises, ils ont un peu perdu beaucoup les arbitrages ces 10 ou 15 dernières années parce que y avait la vague Internet qui les poussait à dire faut ouvrir. Bon. En réalité, c'est moins le débat aujourd'hui ouvrir ou fermer que, à mon avis, être capable de pouvoir encore une fois dire les podcasts de France Culture, il n'y a aucune raison qu'il soit à ce point protégé. Au contraire, on est dans une. Il faut qu'il soit téléchargé, n'est-ce pas, regardez. Donc ça, tout ça doit être évidemment dans un système qui doit être protégé, parce que si on vous remplace un podcast par un autre, c'est quand même un problème. Mais en même temps, les enjeux sont pas exactement les mêmes que les dossiers de santé dans un hôpital, et y compris que vos mails professionnels échangés à l'intérieur de Radio France. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on est obligé de plus en plus d'avoir une pensée et une technologie qui soit très sophistiquée. Bon. Or, Internet, à l'origine, n'a pas été pensé pour ça. Internet, c'est une agrégation de tas d'innovations qui avaient été pensées de manière très légère et très simple et très fluide. C'est ce qui a fait leur succès, mais qui n'avait pas été pensé pour être la messagerie pour l'ensemble de la planète. Le mail, dans ses premières versions, c'est une carte postale. Il n'y a pas de... Vous pouvez, si vous interceptez le flux d'informations, vous lisez la carte postale. Bon, comme une carte postale à la poste. Bon. Alors depuis, évidemment, on a rajouté. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir un travail qui va prendre des années, en réalité, de réécriture, de restructuration, et on va probablement, en même temps que les usages ont évolué, avoir des approches qui vont être, pour le coup, beaucoup plus nuancées.
Vous êtes d'accord avec ça, Amaël Guiton? En tout cas, ces usages-là, aujourd'hui, sont acquis. Il n'y a pas de risque de retour en arrière.
C'est surtout qu'il y a des terrains qui sont très différents. Enfin, je ne vois pas particulièrement en quoi une vague de cyberattaques pourrait remettre en cause, par exemple, les politiques d'ouverture des données publiques telles qu'elles se sont faites ces dernières années en France. Enfin, on n'est pas vraiment sur le même terrain. La question de l'open data, que ce soit d'ailleurs de la part des pouvoirs publics ou même des entreprises, elle se joue plus sur la question de qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas, c'est-à-dire la transparence versus le secret.
Comparaison, évidemment, n'est pas raison, mais regardez ce qui se passe, par exemple, sur les attaques terroristes. La remise en cause des frontières, par exemple, elle a existé, c'est-à-dire la remise en cause de la libre circulation des personnes. On pourrait se dire, mais je conçois tout à fait que ça ne soit pas forcément pertinent, mais que la libre circulation des données pourrait aussi faire les frais, en partie les frais, voilà, de ces cyberattaques si elles venaient à se répéter.
Bah, pour le coup, c'est le résultat en général d'une vague de cyberattaques, c'est effectivement une prise de conscience sur les questions de cybersécurité. Mais pour moi, la grosse différence quand même, c'est que la sécurité informatique, elle profite à tout le monde. Elle profite aux entreprises, elle profite aux individus, à vous et moi. Effectivement, ça peut relancer tout à fait le débat sur la question de la cryptographie. Donc, c'est pas exactement la même chose que la politique sécuritaire telle qu'elle s'exerce classiquement. Après, le risque, peut-être, c'est que dans un monde, effectivement, où il y a de plus en plus de vagues d'attaques, qu'elles soient d'ailleurs purement crapuleuses ou commanditées par des États, etc., parce que c'est quand même un théâtre d'ombre qui est assez complexe, le vrai risque, pour moi, c'est plus la question de la militarisation du cyberespace, en fait, et effectivement du renforcement permanent de capacités d'attaque par les États, sachant que c'est quelque chose qu'il va falloir, à mon sens, réguler extrêmement urgemment. L'idée d'une convention de Genève numérique me semble effectivement assez pertinente de ce point de vue-là.
Nathalie Devilliers.
Pardon. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que on parle de cette cyberattaque et puis voilà, on va essayer d'en tirer les leçons. Mais je me demande si les personnes ne craignent pas aussi d'être les prochaines cibles directes. Mmh. Alors, certes, effectivement, avec l'exemple des hôpitaux, ça a impacté les patients, mais on s'attaquait à des infrastructures et le risque qui serait majeur, ce serait sur les individus en tant que tels. Quand on explique que le fuiteur d'infos peut déverser des téraoctets de données pour ajouter de la transparence, c'est un élément qui est positif. D'autres fuiteurs d'infos vont, de manière préméditée et ciblée, faire fuiter une information. Donc on peut aussi donc questionner et prendre un mouvement de recul sur cette cyberattaque, comment est-ce qu'elle est instrumentalisée, et si de toute manière c'était viral comme un virus de la grippe qui s'est transformé, qui nous a échappé, pourquoi pas, mais si on n'a pas le fin mot de l'histoire, de toute manière il faudra prendre des mesures beaucoup plus concrètes.
Donc, quand vous parlez, pardonnez-moi, juste Nathalie Devilliers, de fuiteurs d'infos, est-ce que c'est ce que sont par exemple les Wikileaks, c'est-à-dire est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là?
Tout à fait.
Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, alors je dois dire, des termes, même si ça fait un petit moment qu'on les entend et qu'on les utilise, les lanceurs d'alerte, les leaks justement, les hackers, il y a une forme de confusion qui s'installe sans doute aussi délibérément, parce que quand on parle des Macron leaks, on ne sait pas très bien dans quel registre on est, et ça crée finalement beaucoup plus d'incertitudes que de connaissances, j'ai l'impression.
Il y a l'incertitude parce que c'est des termes anglais, ça a l'air super hype de parler des hackers, de parler de leakers, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on en est, de lanceurs d'alerte. La frontière du lanceur d'alerte avec le fuiteur d'information, c'est que le lanceur d'alerte a un statut juridique très protégé qui va dévoiler une information dont il a connaissance personnellement à l'occasion de son activité professionnelle, qu'il va délivrer à son supérieur hiérarchique direct ou indirect. Et on le voit par exemple dans la loi Sapin 2, qui a finalement abrogé des statuts antérieurs de lanceurs d'alerte qui existaient en France, que le secret défense, tout ce qui relève de la diplomatie, de la sécurité, des armées, en est systématiquement exclu. C'est ce qui fait que toutes les personnes qui travaillent pour ces agences gouvernementales ne peuvent pas être des lanceurs d'alerte au sens légal. Donc s'ils décident de délivrer de l'information et de lancer une alerte, ils se mettent dans l'illégalité.
Et je dois dire que vous avez fait un petit schéma.
Une facilitation graphique, oui, c'est ma signature.
Ah, vous appelez ça facilitation graphique. Bon, ben moi, j'ai appelé ça un schéma. On l'a mis en ligne, je crois, sur notre site. C'est assez clair. En tout cas, sur cette confusion des genres, confusion peut-être entretenue, Bonatiolin.
Entretenu ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens. Enfin, leur vie a profondément été bouleversée par l'immersion du numérique. Notre quotidien, on l'a presque oublié. On a l'impression qu'on a un iPhone depuis 30 ans. Ça fait même pas 10 ans qu'on en a un. Donc voilà, nos vies ont été profondément changées. Le numérique s'y est instillé très progressivement, subrepticement. Et tout d'un coup, on prend conscience que, mince, il est devenu tellement central dans nos vies que ça nous rend vulnérables,
en fait. On est dépendants.
Et que ça nous rend vulnérables, ça nous rend surveillables, ça nous rend évidemment aussi dépendants. Voilà. Et là-dessus, se greffe, au fond, des nouveaux acteurs, qui vont agir un peu sur tout ça. Alors, il y a le lanceur d'alerte, plutôt dans une figure un peu positive, qui, lui, par sa position interne à une organisation, va décider, en son âme et conscience, qu'il a un intérêt supérieur pour l'humanité, à l'informer de ce qu'il voit se pratiquer dans une organisation. Ça peut être la NSA, ça peut être une entreprise, ce sera d'ailleurs beaucoup dans les entreprises demain, à mon avis, où il y a beaucoup de cadavres dans les placards qui finiront par sortir, en réalité. Hein. Bon, ça, c'est un enjeu. Et puis ensuite, il y a les attaques qui sont plus ou moins commanditées, parfois qui peuvent se retrouver sur des sites comme Wikileaks. C'est pas tout à fait la même chose. Comparer Snowden, comparer un lanceur d'alerte dans une entreprise pharmaceutique par exemple, et puis les attaques plus ou moins diligentées par des services secrets, on ne sait pas très bien lesquels, pour intervenir dans une campagne quasiment à la demande d'un des candidats de cette campagne, ça n'a rien à voir. Voilà. Et on a un peu tendance à tout mélanger, mais je vous dirais, je pense que c'est normal en réalité que ce soit compliqué. Les gens, ils doivent apprendre à servir de tout ça, c'est déjà mis quelques années. Ils doivent prendre conscience des risques qu'il y a. Et puis, il faut aussi, comme le disait tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez pris conscience que vous pouvez nécessairement changer vos usages, qu'encore faut-il que les applications vous permettent de faire ces évolutions d'usage. Et tout ça, en réalité, est en train, à mon avis, de se mettre en marche. Et c'est positif, parce que sans quoi, les risques sont quand même gigantesques.
C'est compliqué, il y a de nouvelles modalités, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont pas neuves. C'est-à-dire, il y a de la cybercriminalité, parce qu'il y avait de la criminalité avant, il y a de la cyberdiplomatie, parce que la diplomatie existe depuis toujours, il y a de la cybersurveillance, mais avant, c'était de la surveillance qui se faisait autrement, donc ça rejoue tout ça. Là où ça complexifie, c'est qu'effectivement, par exemple, quand on a une vague d'attaques par rançongiciel qui l'a lancé, on n'en sait rien. C'est beaucoup plus compliqué à savoir, ça demande du temps. Quand les Macron leaks apparaissent un vendredi soir, 4 heures avant la fin de la campagne officielle, on se pose la question forcément de savoir d'où ça vient, etc. Donc c'est effectivement, il y a ce côté théâtre d'ombre qui rend les choses difficiles. Mais souvent, ça repose les problèmes simplement de manière différente. Pour prendre l'exemple typique de documents qui proviennent de piratage, qu'est-ce que font les journalistes par rapport à ça? Eh ben, on se pose exactement les mêmes questions qu'on s'est toujours posées avec des sources, par exemple. On sait très bien que quand il y a des articles avec des révélations, la source qui a filé l'info au journaliste, elle n'a pas forcément de très haute considération morale. Et donc, oui, bien sûr, il faut toujours se poser la question de comment on exploite l'information, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on n'écrit pas, de comment on la met en contexte, etc.
Oui, mais
donc,
c'est ce qui explique, par exemple, que les Macron leaks n'ont pas été plus, n'ont pas eu plus d'impact que ça, même s'il y avait aussi les conditions de silence qui étaient imposées aux médias, c'est-à-dire on était justement à la fin de la campagne, donc c'était extrêmement compliqué d'évoquer cette affaire sans déroger aux règles de stricte neutralité.
Mais il y a eu aussi
un travail de vérification qui a permis de démonter cette affaire.
Bien sûr, parce que quand il y a 15 gigas de documents qui arrivent d'un seul coup, on ne va pas publier un article au bout de quelques heures, évidemment. Il faut les regarder, il faut vérifier, est-ce qu'ils sont authentiques, il faut évidemment questionner les gens, leur donner aussi l'occasion de répondre. Et puis ce dont on s'est rendu compte quand même, hein, il faut le rappeler, c'est qu'il n'y avait quand même pas grand-chose de fracassant dedans. Ça permet d'éclairer la campagne, mais par exemple, il y a eu un article dans Libération sur comment En Marche a construit son financement, il n'y avait rien d'illégal. Donc c'est aussi pour ça que ça a eu peu d'impact, c'est parce qu'il n'y avait quand même rien de fracassant dedans, et que par contre, du coup, la motivation de déstabilisation politique, elle était vraiment patente.
Oui, enfin, alors c'est vrai qu'il y a des continuités, hein, c'est évident. Il y a quand même aussi beaucoup de changements, c'est-à-dire que hier, vous aviez une information que vous jugiez un peu discutable ou pas, vous pouviez décider de ne pas la publier, et si tous les journalistes faisaient bien leur boulot, il y a plein de choses qui ne passaient pas, ce qu'on appelait la barre des gatekeepers, que sont les journalistes. Oui, aujourd'hui, ça peut vous échapper, c'est-à-dire que même si le journaliste décide, ils disent non, c'est pas éthique, ça a l'air trouble, on se demande bien pourquoi cette information n'a pas pu le vérifier. Très bien, ça peut être sur un autre endroit et tout d'un coup, le monde entier va pouvoir les lire. C'est quand même une différence fondamentale. Et c'est pour ça que je pense que on doit aussi réfléchir à mettre à jour, sans jeu de mots, nos logiciels en la matière. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tout un arsenal, tel que, on en parlait tout à l'heure, les conventions de Genève. Bon. Quand est-ce qu'on va, d'une certaine manière, les adapter? Hein, dans la Convention de Genève, vous ne faites pas n'importe quoi avec des prisonniers, vous n'avez pas le droit de bombarder un hôpital, sinon c'est un crime de guerre, etc. etc. Ben, il faut tout simplement réfléchir aujourd'hui, hein, c'est quoi le prolongement de cet esprit de Genève, et je dirais aussi l'esprit d'après la Seconde Guerre mondiale, dans le champ de la sécurité informatique. Et ça, pour l'instant, c'est pas fait. Je vous disais tout à l'heure, parce que je pense que pour les individus, c'est important, d'une certaine manière, les gens aujourd'hui, ils ont par Internet, une fenêtre directe d'accès sur le monde. Bon, mais une fenêtre d'accès direct sur le monde, lorsque vous la laissez pas ouverte, vous faites attention, vous mettez des verrous, vous réfléchissez à quand vous allez ouvrir selon ce que vous trouvez derrière, etc. Tout ça doit quand même s'adapter fortement à des usages très différents.
Nathalie Devilliers, vous qui êtes juriste, vous pouvez peut-être vous atteler à la au début de l'écriture de cette convention de Genève.
Vous me donnez une mission ?
Eh ben allez, je vous donne la mission et puis on vous invite quand vous aurez déjà un premier brouillon.
J'accepte la mission, ça prendra plus qu'une minute.
Merci beaucoup en tout cas à vous trois, Nathalie Devilliers, Benoît Thiolin et Amaël Guiton d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. La page du Grain à Moudre, demain, suite de notre examen de la recomposition du paysage politique français avec la question suivante, les vieux partis sont-ils vraiment finis ? Tout de suite, c'est le sommaire de ping-pong avec vous, Mathilde Serrel, bonsoir.
Rebonsoir Hervé Gardette, le sommaire de ping-pong en cette veille de 70e édition du Festival de Cannes, eh bien, c'est du cinéma mauvais genre avec Jean-François Dany et Christophe Bier.
Bon, ben, ils sont là manifestement.
Mais c'est mauvais genre.
On vous retrouve après le rappel des titres.